Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Mardi dernier était évoquée une des premières œuvres du poète Yves Bonnefoy, du mouvement et de l'immobilité de Douve. Était soulignée aussi sa difficulté d'accès, lors même qu'aucun hermétisme n'était recherché pour lui-même. Il serait trop simple alors, et par trop arbitraire, d'opposer une poésie lisible avec immédiateté et une poésie plus ardue, sibylline, exigeant du lecteur l'exploration d'un labyrinthe riche de galeries secrètes. Prévert contre Mallarmé ? Dans une lettre à son professeur Georges Isambard, à laquelle il joint le poème « Mon triste cœur bave à la poupe », Rimbaud ajoute « Ça ne veut pas rien dire ». C'est évidemment une phrase célèbre, mais une phrase qui est à méditer. Yves Bonnefoy, de son côté, n'a de cesse de souligner les dangers de ce qu'il nomme dans plusieurs œuvres la gnose. Je le cite. « L'attitude gnostique, autrement dit, c'est de substituer à tout, et à autrui en particulier, une image qu'on tient pour le seul réel. Si bien qu'il y a gnose, à mon sens, en tout cas risque de gnose, dès qu'il y a écriture, puisque l'écrivain s'attache à des faits, des objets, des êtres qu'il aime, qu'il investit donc de son désir, qu'il abolit donc de leur être propre, qu'il divinise, en somme, selon les lois de son propre ciel, alors pourtant qu'ils sont de ce monde. » Aussi s'agit-il à présent, sans la moindre illusion d'un quelconque progrès, de proposer un contrepoint à l'écriture du recueil « Du mouvement et de l'immobilité de Douve », publié en 1953 et qui, je l'ai dit, a été évoqué la semaine dernière. Presque 50 ans plus tard, donc en 2001, après de multiples publications, Yves Bonnefoy publie le recueil intitulé « Les planches courbes ». Et puisque les termes, en tout point opposés à la gnose, dont il vient d'être question, qui sont particulièrement chers à Bonnefoy, importent, à savoir deux termes essentiels, « lumière » et « présence », lisons tout d'abord le fragment qui ouvre le recueil et qui porte le titre « Les rainettes le soir. Les rainettes le soir. Rauques étaient les voix des rainettes le soir, là où l'eau du bassin coulant sans bruit brillait dans l'herbe. Et rouge était le ciel dans les verres vides, tout un fleuve la lune sur la table terrestre. Prenait ou non nos mains la même abondance. Ouverts ou clos nos yeux, la même lumière. Comment alors ne pas être sensible à la simple lumière que ces trois quatrains nous prodiguent? Ajoutons l'intense symbolique représentée par la couleur rouge aux yeux du poète. Qu'il suffise de citer deux autres recueils majeurs, Le nuage rouge et L'écharpe rouge. Ce dernier texte est une sorte d'autobiographie sous forme de prose poétique. Bonnefoy écrit, je le cite, « Entrant dans la maison d'Ambérac, Élie, c'est le prénom du père du poète, avait bien dû se demander s'il était digne de recevoir le don extraordinaire de cette écharpe qui signifiait le rouge de l'être à dégager des grisailles de l'exister quotidien. » Et cette écharpe rouge que la mère aura tendue au père, sans qu'il sache peut-être la saisir, patient cheminot, avare de mots et d'échanges, c'est au fils qu'elle l'attendra. En un don ainsi décrit à propos du premier abécédaire qu'elle donnera à l'enfant. Je cite de nouveau Bonnefoy lui-même. C'était pour mieux reconnaître ce qui se passait alors dans la femme encore espérante qui initiait à ce verbe, rassembleuse d'un monde en voie de se démembrer, Isis du petit logement au bord des chemins de fer. En me montrant les grands pouvoirs de quelques mots simples, ma mère m'incitait à ne pas renoncer, dans mon existence à venir, à ce regard enfantin qui venait de l'aider à reprendre pied dans la sienne. Elle me demandait de recevoir d'elle l'écharpe rouge qu'elle avait eue à offrir à un grand moment de sa vie. Cette étoffe dans les plis de laquelle le monde semblait être encore de l'être, de l'unité, encore de quoi donner un sens à la vie. Certaines pages de ce même livre disent encore l'inquiétude qu'exprimait sans la dire l'écharpe rouge et que ce livre-ci d'exégèse et d'anamnèse a tenté de raisonner, d'apaiser. Une seconde fois perdue ? Ah, qu'il est fréquent, en effet, que telle autre vie dont on voudrait le regard se détourne de nous et par notre faute. L'autre n'accède à soi qu'à travers nous, il ne nous doit que son être, rien, si nous ne l'aidons pas à nous devoir tout. Mais ce qui meurt dans les représentations que nous nous en faisons peut renaître comme présence, et qu'importe si ce n'est parfois que pour un instant. La vie n'est jamais qu'un éclair qui ne s'immobilise que pour laisser entrevoir, c'est son vœu peut-être, de grands pays en sommeil, étagés de toutes parts, autour de nous, dans la nuit. Thank you. Claude Debussy, interprété à la harpe par Xavier Demestre. Il s'est agi ici du morceau intitulé « Première arabesque » et précédemment, vous aviez entendu un morceau intitulé « Clair de lune », toujours interprété à la harpe par Xavier Demestre. Mais revenons à présent au recueil « Les planches courbes ». Il comporte cette section. La pluie d'été, la voix lointaine, dans le leurre des mots, la maison natale, les planches courbes, l'encore aveugle et enfin jeter des pierres. Lisons alors un des poèmes que j'ai lu parmi tous les autres. Il ne comporte pas de titre. Pluie des matins d'été, inoubliable clapotement, comme d'un premier froid sur la vitre du rêve. Et le dormeur se déprenait de soi et demandait à main nue dans ce bruit de la pluie sur le monde l'autre corps qui dormait encore et sa chaleur. Bruit de l'eau sur le toit de tuiles, par rafale, avancée de la chambre par à coup dans la houle qui s'enfle de la lumière. L'orage a envahi le ciel, l'éclair s'est fait d'un grand cri bref et les richesses de la foudre se répandent. Ou lisons encore cet autre qui ne comporte pas non plus de titre. Et la vie a passé, mais te garda vive mon illusion de ces mains savantes qui trient parmi les souvenirs, qui en recousent presque invisiblement les déchirures. Sauf, que faire de ce lambeau d'étoffe rouge? On le trouve dans sa mémoire quand on déplace les années, les images, et brusque, des larmes montent et l'on se tait dans ses mots d'autrefois. Parler, presque chanter, avoir rêvé de plus même que la musique, puis se taire, comme l'enfant qu'envahit le chagrin et qui se mord la lèvre et se détourne.
Thank you.
recueil, la lumière, obsédant leitmotiv, nous baigne et nous apaise. Écoutons alors la voix du long poème en prose qui occupe toute la section intitulée « Les planches courbes ». L'homme était grand, très grand, qui se tenait sur la rive près de la barque. La clarté de la lune était derrière lui, posée sur l'eau du fleuve. À un léger bruit, l'enfant qui s'approchait, lui tout à fait silencieusement, comprenait que la barque bougeait contre son appontement ou une pierre. Il tenait serré dans sa main la petite pièce de cuivre. « Bonjour, monsieur, » dit-il d'une voix claire, mais qui tremblait parce qu'il craignait d'attirer trop fort l'attention de l'homme, du géant, qui était là, immobile. Mais le passeur, absent de soi comme il semblait l'être, l'avait déjà aperçu sous les roseaux. « Bonjour, mon petit, » répondit-il. « Qui es-tu ? » « Oh, je ne sais pas, » dit l'enfant. « Comment tu ne sais pas ? Est-ce que tu n'as pas de nom ?» L'enfant essaya de comprendre ce que pouvait être un nom. « Je ne sais pas, » dit-il à nouveau, assez vite. « Tu ne sais pas, mais tu sais bien ce que tu entends quand on te fait signe, quand on t'appelle. » « On ne m'appelle pas. On ne t'appelle pas quand il faut rentrer à la maison, quand tu as joué dehors, et que c'est l'heure pour ton repas, pour dormir. N'as-tu pas un père, une mère ? Où est ta maison, dis-moi ? » Et l'enfant de se demander maintenant ce que c'est qu'un père, une mère ou une maison. « Un père, dit-il, qu'est-ce que c'est ?» Le passeur s'assit sur une pierre près de sa barque. Sa voix vint de moins loin dans la nuit. Mais il avait eu d'abord une sorte de petit rire. « Un père, eh bien, celui qui te prend sur ses genoux quand tu pleures, et qui s'assied près de toi le soir, lorsque tu as peur de t'endormir, pour te raconter une histoire. » L'enfant ne répondit pas. « Souvent, on n'a pas eu de père, c'est vrai, reprit le géant, comme après quelques réflexions. Mais alors, il y a ces jeunes et douces femmes, dit-on, qui allument le feu, qui vous assoient près de lui, qui vous chantent une chanson. Et quand elles s'éloignent, c'est pour faire cuire des plats. On sent l'odeur de l'huile qui chauffe dans la marmite. » « Je ne me souviens pas de cela non plus, » dit l'enfant, de sa légère voix cristalline. Il s'était approché du passeur qui maintenant se taisait. Il entendait sa respiration égale, lente. « Je dois passer le fleuve, » dit-il. « J'ai de quoi payer le passage. » Le géant se pencha, le prit dans ses vastes mains, le plaça sur ses épaules, se redressa et descendit dans sa barque qui céda un peu sous son poids. « Allons, » dit-il, « tiens-toi bien fort à mon cou. » D'une main, il retenait l'enfant par une jambe, de l'autre, il planta la perche dans l'eau. L'enfant se cramponna à son cou d'un mouvement brusque, avec un soupir. Le passeur put prendre alors la perche à deux mains, il la retira de la boue, la barque quitta la rive, le bruit de l'eau s'élargit sous les reflets, dans les ombres. Et un instant après, un doigt toucha son oreille. « Écoute, » dit l'enfant, « veux-tu être mon père ?» La voix brisée par les larmes. « Ton père ? Mais je ne suis que le passeur, je ne m'éloigne jamais d'un bord ou de l'autre du fleuve. Mais je resterai avec toi au bord du fleuve. Pour être un père, il faut avoir une maison, ne comprends-tu pas ? Je n'ai pas de maison, je vis dans les joncs de la rive. Je resterai si volontiers auprès de toi sur la rive. » « Non, » dit le passeur, « ce n'est pas possible. Et vois d'ailleurs. » Ce qu'il faut voir, c'est que la barque semble fléchir de plus en plus sous le poids de l'homme et de l'enfant qui s'accroît à chaque seconde. Le passeur peine à la pousser en avant. L'eau arrive à hauteur du bord, elle le franchit, plie la coque de ses courants, elle atteint le haut de ses grandes jambes qui sentent se dérober tout appui dans les planches courbes. L'esquif ne coule pas, cependant, c'est plutôt comme s'il se dissipait dans la nuit, et l'homme nage maintenant, le petit garçon toujours agrippé à son cou. « N'aie pas peur, » dit-il. « Le fleuve n'est pas si large, nous arriverons bientôt. Oh, s'il te plaît, sois mon père, sois ma maison. Il faut oublier tout cela, » répond le géant, à voix basse. « Il faut oublier ces mots, il faut oublier les mots. » Il a repris dans sa main la petite jambe, qui est immense déjà, et de son bras libre, il nage dans cet espace sans fin de courants qui s'entrechoquent, d'abîmes qui s'entr'ouvrent, d'étoiles. Il s'est agi tout ensemble, c'est la réflexion vers laquelle nous porte ce texte en prose, ce poème en prose. Il s'est agi tout ensemble de Caron, le nocher, le passeur du Styx, du Saint-Christophe du peintre Joachim Patinir ou du passage du Styx de ce même peintre. Et puisque Les deux longs poèmes de la section dans le leurre des mots évoquent Ulysse et sa rame, et une nouvelle fois une barque mystérieuse. N'est-ce pas le rituel sacrificiel de l'ancienne Grèce qui se trouve ainsi évoqué, ce rituel nommé Nekouia, sacrifice que l'on fait sur la terre, qui boira le sang par la grâce duquel les âmes des morts seront attirées vers qui les appelle. Ainsi Tirésias le devin répondra-t-il à Ulysse pour mieux lui confier l'oracle de sa fin de vie. Je lis donc l'extrait du chant 11 de l'Odyssée qui fait écho au poème de Bonnefoy. Quand tu auras, c'est donc Tirésias qui s'adresse à Ulysse. Quand tu auras tué les prétendants en ta grande salle, par ruse ou à découvert à la pointe du bronze, alors prends une rame bien faite et va jusqu'à ce que tu arrives chez des hommes qui ignorent la mer et mangent leur pitance sans sel. Ils ne connaissent donc point les vaisseaux aux flancs rouges, ni les rames bien faites qui sont les ailes des vaisseaux. Je vais t'en dire une preuve bien convaincante, qui ne t'échappera pas. Quand, te rencontrant, un autre voyageur dira que tu portes un battoir à vanner sur ta robuste épaule, alors plante en terre ta rame bien faite, offre un beau sacrifice au roi Poséidon, un bélier, un taureau, un porc en état de saillir les truies. Puis reviens à ta maison, sacrifier des hécatombes sacrées aux dieux immortels qui habitent le ciel immense, à tous, sans en omettre aucun. Pour toi, la mort te viendra hors de la mer, très douce. Elle te prendra, quand tu seras affaibli par une vieillesse opulente. Autour de toi, tes peuples seront prospères. Voilà ce que je te prédis en toute vérité. Alors, terminons maintenant par un commentaire qu'un autre poète, dont j'avais d'ailleurs parlé aussi la semaine dernière, je veux parler de Jean-Michel Maupois, qui avait déjà commenté avec beaucoup de finesse le recueil du mouvement et de l'immobilité de Douve. Voici ce qu'il dit à propos des planches courbes. La tâche du poète n'est-elle pas après tout de nous donner à aimer cette terre provisoire et fragile et d'apaiser les feux de notre condition mortelle en nous entretenant à la fois de l'évidence et du mystère, en croisant la beauté avec l'irrémédiable. Plutôt que s'écrier que partout sur terre, injustice et malheur ravagent le sens, il s'agit d'un fragment de Bonnefoy lui-même, plutôt que disloquer la parole et n'être que la lucidité qui désespère, il lui appartient d'articuler, de nommer et ainsi de chercher encore une issue à ce que Mallarmé appelait le tunnel de l'époque. Cette émission touche à présent à sa fin. Je remercie Nicolas à la technique. Je remercie aussi Karine pour son soutien amoureux et sensible. Thank you. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.